Sortie de boîte. Sortie de boîte, Cédric Adrovert.
Ça n'a pas gelé, on a eu de la chance. J'ai entendu notre invité dire ça ce matin, agenouillé devant un plant de vigne à Cressier. Oui, c'est un producteur de vin que nous recevons ce soir, et comme pour tous ceux qui exercent cette profession, la météo du moment est une source d'inquiétude. Il n'empêche, c'est souriant qu'il m'a accueilli dans ses bureaux. Le décor est comme certains vins, boisé. On s'assoit sur une grande table en bois, qui peut accueillir sans aucun doute de nombreux convives. Au mur, une horloge en bois assez ancienne, et juste en dessous, un ordinateur sur un bureau. Mélange de tradition et de modernité, tout un symbole pour administrer en 2017 un domaine qui est dans la même famille depuis plus de 400 ans. La famille, elle, est présente. Au bureau, mon invité travaille en face de son ancien patron, accessoirement son père. On discute, on parle de vin, de météo, mais aussi d'Asie. Mon invité est de retour du Japon, où il est allé rencontrer des clients. Son vin fait du chemin, même si, comme il le dit, du haut de son 1m98, il n'a pas le physique pour être là-bas. D'habitude, je dis bonsoir, mais ce soir, exceptionnellement, ce sera Konnichiwa, Nicolas Rudin.
Bonsoir.
On va parler avec vous de ces voyages au Japon, du choc culturel, de votre profession, de votre parcours. Vous êtes avec nous jusqu'à 19h. Avant toute chose, on va parler de la pluie et du beau temps, si possible pas trop du froid. On a entendu tout à l'heure la météo de Leonard Reichen, du gel attendu demain. La nuit passée, ça a été bon pour vous. Quel est l'impact de la météo de ces derniers jours sur les vignes ?
Alors écoutez, on est vraiment en avance au niveau viticole, puisqu'il y a eu une période vraiment de sécheresse et puis de beau temps qui a prévalu ces deux dernières semaines. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit, je vous ai reçu ce matin avec un grand sourire, puisqu'il n'y avait pas de dégâts actuellement dans nos vignes, ce qui n'est pas le cas dans d'autres régions viticoles suisses.
En Valais notamment.
En Valais, exactement, et puis dans certaines régions du Lavaux. Ce soir, on tremble encore un peu, puisqu'on sait qu'il va faire 0, moins 1 degré, et puis on a encore des risques de gel. Après, ça devrait se réchauffer gentiment. Donc on va pouvoir se détendre à partir de demain, j'espère.
Concrètement, s'il gèle, il se passe quoi pour vous ?
Alors écoutez, les bourgeons qui sont sortis à l'heure actuelle avec le raisin vont péricliter, il n'y aura plus de raisin du tout, d'autres bourgeons vont sortir, mais il n'y aura aucune grappe de raisin dessus.
Oui, donc c'est terminé pour ce temps-là.
C'est terminé pour la vendange, quasiment tout est terminé, mais évidemment qu'il y aura toujours le même travail à faire pour maintenir, disons, le végétal en bonne santé pour les prochaines récoltes.
Le domaine Valentin Cressier, c'est dans votre famille depuis des siècles. Quels souvenirs d'enfant vous en gardez ?
Alors moi, mes souvenirs d'enfance, c'est vraiment les vendanges. Je crois que quand on est jeune et puis on entend des bruits, ce qu'on appelle du foulot pompe, qui font des bruits très particuliers alors qu'on est déjà au lit vers 22h, 23h, on sait que ça travaille en bas. Et puis évidemment, les odeurs aussi de fermentation, de moût qui fermente dans la cave, c'est quelque chose qui marque et puis dont on se souvient, je pense, toute sa vie.
Pourtant, vous n'étiez pas forcément au début prédestiné à reprendre l'exploitation.
Alors non, j'ai eu la chance aussi d'avoir un père qui ne m'a pas mis trop de pression, puisque j'ai décidé d'abord de faire une formation commerciale, employé de commerce, ensuite j'ai travaillé, et par la suite j'ai décidé donc de travailler à 50% avec mon père. J'ai aimé ce métier, et je me suis vraiment lancé après dans la formation justement de viticulteur et en caveur, en terminant par une formation à Changin, donc à Nyon. Et par la suite, je suis revenu un petit peu aux bases justement du commercial, puisque j'ai encore effectué une autre formation en management d'entreprise à la Haute École de Gestion.
Aujourd'hui, on peut être viticulteur, gérer une exploitation sans avoir une formation commerciale.
Alors ça devient de plus en plus difficile, puisqu'on a beaucoup de métiers dans la viticulture à l'heure actuelle, dans nos exploitations, puisqu'il faut évidemment gérer tout le côté administratif, comptabilité, gestion des salaires, du personnel, également être un bon viticulteur, aussi œnologue ou caviste, et également vendre le vin et faire du marketing. Donc on a quasiment quatre métiers, et ça devient de plus en plus difficile, c'est vrai.
Et on ne peut pas vraiment spécialiser, ou à moins d'être une très grande exploitation, c'est impossible, vous devez tout faire.
Alors à l'heure actuelle, pour nos tailles d'exploitation, nous on a quand même des employés qui sont formés à l'heure actuelle pour les vignes, donc ça décharge quand même passablement justement, en me laissant du temps pour faire tout ce qui est administratif. Mais c'est vrai, dans les petites exploitations, on se pose la question, comment est-ce que c'est encore possible de faire cela ? Est-ce qu'il ne faut pas s'agrandir, s'associer avec d'autres personnes et puis se spécialiser dans un ou deux domaines ?
Quand il y a 400 ans d'histoire familiale derrière, on a une pression particulière à perpétuer la tradition, à s'inscrire dans une tradition. On hésite parfois à innover.
Alors justement, j'ai eu la chance de ne pas avoir trop de pression déjà en choisissant mon métier. Et puis après, avec mon père, ça s'est très bien passé. Donc mon père était déjà quelqu'un qui voulait innover, et on a toujours eu un petit peu les mêmes bases de travail, donc ce qui nous a beaucoup aidé pour aller de l'avant.
Il y a une phrase que vous adorez entendre aujourd'hui, ce sont les gens qui disent « Bon alors, il y a les vendanges, puis après vous êtes en vacances ».
Exactement, on entend souvent. C'est vrai que les gens pensent qu'ils nous voient beaucoup travailler aux vendanges, et puis ils ne s'imaginent pas que tout le métier, tout ce qu'il y a à faire justement après, que ce soit au niveau cave, administratif, les périodes de vente, etc. Mais c'est un métier qui est vraiment complet, puisque pour moi-même, je peux dire que je peux prendre quasiment 2 semaines de vacances par année, c'est au mois d'avril.
C'est quoi le gros du métier en dehors de tout ce qui est médiatisé, en dehors des vendanges justement ? C'est la vente ?
Alors, tout dépend. Bon, pour moi, c'est quand même beaucoup la viticulture qui prend pas simplement de temps, mais évidemment de la période du mois de mai à mi-août. Ensuite, quand on arrive aux vendanges jusqu'au mois de janvier, c'est toute la période de vinification et ensuite mise en bouteille jusqu'au mois de mars. Et tout le reste, c'est vraiment de l'administratif et puis de la vente qui se fait.
On va visiter. Joël Picromain avait le choix entre une visite des vignes et de la cave. Elle n'a pas hésité longtemps. On la retrouve avec votre père, Jean-Paul Rudin, et d'autres ancêtres qui ont aussi laissé leur marque.
Sortie de boîte.
Alors ça c'est la vieille cave hein, d'origine où mes grands-parents, mes aïeux travaillaient le vin.
Il y a des inscriptions sur les murs, elles sont d'époque ?
Non, c'est mon père qui aimait bien dessiner. Et puis, pendant les temps un petit peu plus calmes de l'hiver, il est venu faire ses peintures sur les cuves et puis contre les parois.
Et puis ces cuves ici, alors il y en a deux qui sont, c'est quoi, c'est de l'inox, et puis d'autres qui sont en bois. Elles contiennent quoi actuellement ?
Dans l'inox, actuellement, on a plus que du pinot noir qui sera mis en bouteille à l'automne. Tout le reste est mis en bouteille, les blancs, les œils de perdrix, les spécialités, tout est vide, à part les barriques qu'on a aussi dans une autre cave qui sont encore en attente. Ça, c'est des vases en bois, des foudres qui font entre 2000 et 4000 litres. On aime bien les avoir en bois pour les pinots noirs. Parce que à travers le chêne, l'air passe un peu, puis c'est une lente maturité qui se fait dans le vin, qui améliore un peu le goût, qui arrondit les tanins, etc. Il y a ici des cuves en béton. C'est la période entre les deux guerres, puis après la guerre, où il a été construit ces cuves, des gains de place par rapport aux fûts de chêne, etc. Et puis, il se demandait moins de soins. C'est vrai que le chêne, il faut être soigneux au possible pour pas qu'il y ait de moisissure ou rien ne se détériore dans le fût, parce qu'après, ça s'insère dans le bois. Tout est foutu, ouais.
Elles sont encore utilisées, celles-là ?
Oh, on les utilise maintenant, ces vases en béton, on les utilise beaucoup aux vendanges, parce que c'est tout près du pressoir, et puis on a, avec les blancs, on appelle le débourbage. On les laisse poser pendant 24 heures, le matériel solide se dépose au fond de la cuve, et puis on prend le clair pour mettre dans des autres cuves pour la fermentation, et puis ces fonds de cuve sont filtrés, puis rejoignent, à part la matière solide, rejoignent le reste.
Donc là, il y a toujours un verre qui traîne hein, près des cuves.
Ouais,
c'est normal.
Oui, tout à coup, on aimerait juste déguster quelque chose, un petit doute, et puis oui.
Sortie de boîte.
De retour dans notre studio de Marin avec Nicolas Rudin, propriétaire du domaine. La tradition est bien présente, mais vous l'avez dit tout à l'heure, il faut innover, vous êtes porté sur l'innovation. Aujourd'hui, l'innovation dans votre domaine, elle est où ?
Alors c'est un long processus hein, d'innovation. Il y a eu l'innovation justement au niveau des cépages qui s'est déjà faite il y a quelques années. Niveau aussi de la mécanisation, puisqu'on cherche justement à être beaucoup plus efficient. Et puis la petite particularité, c'est que maintenant, vous l'avez peut-être déjà entendu, l'année passée, on a fait un essai de drone de traitement, puisqu'on souhaite passer à des vins biologiques. Et puis on arrive vraiment justement avec cette année à ce drone pour essayer de le mettre au point définitivement, pour qu'il serve en fait à toute la profession par la suite.
On va revenir sur ce drone, mais ces innovations, elles ont pour but de résister à la pression. Une pression qui vient d'où ? C'est la concurrence aujourd'hui, la grande pression ?
Alors il y a une énorme concurrence évidemment, et puis le consommateur avec cette concurrence, ce qui est louable hein, d'avoir de la concurrence, il a le choix. Donc le consommateur à une époque, il buvait que du Chasselas, que du Pinot Noir, et puis maintenant il a une multitude de vins avec de régions différentes. Donc à nous d'innover aussi, puis de faire des vins qui ne se ressemblent pas. En fait, quand vous avez des clients qui viennent dans la cave, chez moi, je leur explique que ce vin, il est totalement différent d'un autre. Et sur la palette de 12 vins que nous avons, les clients vont en aimer 3 à 4, vraiment absolument. Et les autres, peut-être que ce ne sera pas leur goût. Ça, c'est tout à fait normal à l'heure actuelle.
Est-ce qu'il y a des modes dans le vin ?
Oui, absolument. Alors, ça, c'est quelque chose de très difficile, justement, à gérer au niveau de l'encépagement, peut-être, puisque pendant 4-5 ans, vous avez les vins très boisés, qui avaient peut-être, il y a une dizaine d'années, les vins américains. Maintenant, c'est plus du tout ce type de vin qui est recherché. Mais nous, ça nous pose quand même des problèmes, justement, au niveau de l'encépagement, puisque quand on plante un plant de vigne, on les a pour les 40 prochaines années. Donc, avec ce plant de vigne, il faut pouvoir faire, à la limite, un vin rouge très tannique ou plus léger. Il faut peut-être faire un mousse. Il faut peut-être faire un vin blanc ou bien un rosé. Donc on plante vraiment des cépages qu'on puisse un petit peu jouer, parce que les modes évidemment changent, mais le cépage ne pourra pas changer comme ça du jour au lendemain.
Donc vous devez faire un choix qui va porter sur des décennies et qui doit vous permettre de résister ou de vous adapter à toutes les modes possibles, c'est ça, si j'ai bien compris ?
C'est ça le gros challenge, puisque même si on plante même pas pour nous, ça sera pour la prochaine génération, que ce soit nos enfants ou d'autres personnes, mais on plante pour les générations futures.
Aujourd'hui, on a parlé de gel, de gros dégâts en Valais. Quand une année est catastrophique, quelle implication ça a pour vous ? On parle de long terme, de court terme. Aujourd'hui, est-ce qu'une année, c'est pas quelque chose qui est critique déjà pour vous ?
Alors ça devient vraiment critique, puisqu'on a eu vraiment 4-5 petites années compliquées. Il y a eu évidemment cette grêle qui est dans la mémoire de tout le monde. Quand vous avez des belles années, 10 belles années, et tout d'un coup vous avez une petite année, vous pouvez jouer avec les stocks, mais là, quand vous avez 5, sur 5 années, vous avez 4 petites années, ça devient des fois compliqué à gérer, justement, et on est en flux tendu en permanence, et on ne peut pas se permettre, justement, une nouvelle année de petites récoltes.
Vous pensez que cette tendance, elle va en empirant ? Vous êtes de plus en plus pressé sur du court terme ?
Alors ça, c'est la tendance un petit peu mondiale de tous les domaines, vraiment, d'être pressé. C'est vrai que les acheteurs veulent, n'ont plus conscience non plus de cette politique, en fait, à très long terme, qu'on est obligé d'avoir dans la viticulture. Et ben, les changements de mode, aussi les achats qui sont des fois groupés par des grands groupes, font que, ben, évidemment, on doit être très, très réactif.
La tendance à être un groupe, à être une grande exploitation, c'est quelque chose qui existe. Vous pensez qu'un jour, vous pourriez être racheté par un plus grand groupe, par exemple ?
Alors, tout est possible à l'heure actuelle. Hein. Je crois qu'il ne faut pas, même si ça fait plus de 400 ans que le domaine existe, le domaine pourra perdurer, mais peut-être que ça ne sera pas mes enfants, peut-être que d'autres personnes le reprendront. Ça, faut pas non plus se leurrer, je crois que c'est
ce serait pas un drame terrible pour vous.
Alors, ce serait pas un drame, ça fait toujours un petit peu mal au cœur. Mais comme vous voyez, on a même racheté un domaine à Cressier avec un collègue de Vaumarcus. Je crois que ça s'est très bien passé. Le but, c'est que le nom du domaine perdure, en fait.
Aujourd'hui, on parlait de la concurrence, notamment de la concurrence étrangère, mais vous aussi, vous allez à l'étranger. L'exportation, aujourd'hui, c'est une nécessité ?
Alors, pour nous, c'est une nécessité, je pense, déjà pour s'affirmer qu'on a de bons vins, qu'on peut exporter. Pour nous, ça représente 10% quasiment de notre...
Quand même.
Oui, c'est quand même quelque chose d'important de notre production, principalement en Chine et au Japon. Et puis, c'est quelque chose justement qui permet aussi de s'ouvrir au marché mondial.
Et c'est pas quelque chose de récent, ça fait plus de 10 ans que vous êtes en Asie. Comment ça s'est fait ?
Alors, on avait commencé justement au Japon. C'est mon père qui avait fait une foire internationale à Düsseldorf, hein, qui est très connue. Et un Japonais était venu en fin de foire lui demander... pour déguster, et il a dit qu'il allait entendre reparler de lui. Et ce n'est que 2 ans après qu'on a entendu reparler de lui, avec une première commande de 500 bouteilles. Et pour la suite, bah évidemment, que ça a toujours augmenté pour arriver à l'heure actuelle à des quantités non négligeables pour nous.
Et ça a continué. On a mis une photo sur notre site internet. D'ailleurs, on peut voir une de vos bouteilles dans un manga. C'est assez surprenant. Comment ça s'est fait, ça ?
Alors, c'est l'importateur qui a envoyé une bouteille de Chasselas, donc en dégustation, à un manga qui s'appelle La Sommelière, qui est très connu. Et puis, ils ont sélectionné ce vin, ils ont tiré une histoire dessus. C'est assez intéressant à voir. C'est
surprenant, ouais, de voir effectivement dans un manga la bouteille. Vous pouvez voir sur notre site internet. Au Japon, vous y étiez ces dernières semaines. Vous faites régulièrement le voyage. C'est la 6e fois que vous le faites. C'est quoi le but de ces voyages ?
Alors, le but de ces voyages, la première fois, c'était vraiment de me rendre compte comment ça se passe, où ils vendent. C'était plutôt un voyage initiatique pour moi. Et puis, depuis, je m'y rends à peu près tous les 2 ou 3 ans. C'est vraiment pour... aider le, si vous voulez, l'importateur pour rencontrer tous ces distributeurs sur place et les personnes qui consomment directement nos vins sur place, que ce soit des restaurants, il y a des privés ou des entreprises.
Culturellement, c'est quoi les plus grosses différences entre le Japon et ici, et Neuchâtel?
Alors, c'est un monde totalement différent. Évidemment, moi, je parle beaucoup de la culture, puisque la culture japonaise est très compliquée. C'est un monde hyper intéressant. Vous avez un respect par rapport, justement, que ce soit de la personne ou du produit. Des formules de politesse qui sont des fois assez longues et drôles, mais après 6 fois, c'est vrai que je commence à maîtriser un petit peu les choses, et puis ça ne me choque plus, mais c'est vraiment très intéressant.
Vous me disiez en préparant l'émission, les au revoir sont particulièrement longs.
Oui, alors quand vous êtes fournisseur, justement, le vigneron qui vient dans un restaurant et dont le restaurant vend vos vins, ça peut prendre jusqu'à une demi-heure d'au revoir. C'est très long, mais il faut respecter ça, c'est dans leur tradition, et c'est quelque chose que j'aime bien maintenant.
Ah oui, c'est vrai que nous qui avons tendance à vouloir aller vite souvent, il n'y a pas un malaise pendant une demi-heure?
Non, alors il y a des, on pourrait dire des silences qui sont, si vous voulez, où il y a des bruits qui sortent, on ne sait pas très bien ce qu'ils font, mais il y a toute une réflexion derrière, et quand on comprend un petit peu le fonctionnement qui est derrière, justement, c'est des choses assez intéressantes, et on arrive à voir justement le respect de la personne, ce qui est très important au Japon.
Et au niveau de la culture de la table, et particulièrement du vin, autour du vin, est-ce qu'il y a de grandes différences quand on fait une dégustation au Japon ou ici?
Alors, bon, moi j'ai fait justement dernièrement des dégustations, que ce soit avec des sommeliers ou bien dans des magasins directement avec des clients, c'est le nombre de questions. Si vous arrivez dans un restaurant avec des sommeliers, une petite dégustation de 5-6 vins peut prendre plus de 4 heures de temps, tellement il y a de questions, et c'est des questions très très précises.
Ah, c'est pas des questions de gens qui connaissent pas, ou des questions un peu naïves? Ah oui.
Alors, c'est des questions, ils ont beaucoup étudié avant, ils ont lu beaucoup de livres, ils se sont ils ont appris un petit peu de la région, ils savent déjà 2-3 choses de la région, ils connaissent des mots de la région, des lieux, c'est assez impressionnant. Et on est souvent surpris, justement, par la qualité des questions qu'ils posent.
Des questions plus poussées que vous pouvez parfois entendre ici?
Alors, c'est plus poussé, puisqu'évidemment, ils sont beaucoup plus loin, et puis ici, les gens habitent à côté, et puis ils ont une certaine habitude du vignoble.
Et au niveau des goûts?
Alors le goût du japonais, c'est des goûts qui sont vraiment très fins. Au niveau des vins, donc on vend principalement du chasselas, du non filtré, un petit peu d'œil de perdrix et du pinot noir, un peu de chardonnay aussi. Par exemple, si j'essayerais de vendre en gamay en barrique, ce ne serait pas possible, ce n'est pas dans leur goût. Mmh. Ils veulent des vins qui soient très très fins.
Et le marché asiatique aujourd'hui, 10%, vous l'avez dit pour vous, mais c'est un marché en progression?
Alors, ça a toujours été un marché, si vous voulez. Le but, c'est de garder à peu près ces 10% pour moi. Je ne peux pas non plus m'étendre, non plus pour vendre énormément, mais c'est d'avoir une croissance. On l'a eu un petit peu vraiment sur la Chine. Le Japon, c'est toujours assez... ça reste assez stable. Mais maintenant, par les rencontres qu'on a faites il y a 2 semaines, je pense qu'on va un petit peu augmenter nos ventes aussi.
Est-ce que vous avez déjà pensé à mettre votre vin dans une montre?
Pas du tout.
Jamais. La question peut paraître surprenante, elle n'est pas si idiote que ça, vous allez voir, ça se fait dans sa chronique horlogère de la semaine. Marie-Lise Saillard vous le prouve.
Pile à l'heure.
Que les abstinences s'éloignent, aujourd'hui on parle d'alcool.
Oui, mais un peu là, il l'aura su parce qu'enfin il critiquait.
Quel rapport avec les montres, allez-vous me demander? Eh bien figurez-vous qu'une entreprise a décidé de lancer une collection de montres qui comporte de l'alcool. Mais pas n'importe quel alcool.
Boire un petit coup, c'est agréable.
La firme en question, c'est Wealth Solutions, en Pologne, qui collectionne et vend des produits d'exception comme des œuvres d'art, du vin, des spiritueux et des montres. Et les alcools choisis sont toujours exceptionnels.
Je prendrais bien un grand truc frais, genre un cognac.
Il y a eu le plus vieux cognac du monde, un cognac Gautier de 1762, dont une goutte a été introduite dans une montre de l'horloger suisse Armin Strom. Un disque en saphir scellé, placé à 5 heures, contient le précieux breuvage qui ne rentre bien sûr jamais en contact avec le mouvement et reste visible. Cette montre a été baptisée Cognac Watch, sobrement. Enfin, si je peux dire ça. Wealth Solutions a aussi signé un partenariat avec la marque horlogère suisse Speak Marine. Cette fois, ce n'est pas une antique boisson de France qui a été choisie, mais un élixir ancestral des Caraïbes, un Harewood 1780, le plus vieux rhum du monde. Cette fois, la goutte de rhum a été placée dans une capsule à 11 heures sur le cadran. La montre, vous l'aurez deviné, a été baptisée toujours aussi sobrement Rum Watch.
Yop, là-haut, une bouteille de rhum.
La dernière création en date dans cette collection Spirit Watches vient d'être présentée, c'est la Whisky Watch. Grâce au partenariat avec la maison neuchâteloise Louis Moinet, vous pouvez donc porter à votre poignet une montre dans laquelle est enfermée une goutte du plus vieux whisky du monde, un Old Vatted Glenlivet de 1862. La Whisky Watch a été produite en une série limitée à 50 exemplaires. Cette fois, la capsule a été placée à 3 heures sur le cadran. La bouteille a été ouverte le 14 mars dernier à Varsovie, en Pologne, en présence d'experts. Seule une petite fiole du fameux spiritueux écossais a été nécessaire pour la fabrication. Si vous êtes intéressé, sachez que la souscription vient d'être lancée.
À l'heure. La Whisky Watch que vous pouvez voir en photo d'ailleurs sur notre site internet. Il n'y a pas eu de Wine Watch. Je vous ai vu écouter attentivement Nicolas Rudin. Vous allez approcher quelques entreprises horlogères ces prochaines semaines.
Mais j'espère que les entreprises horlogères s'approcheront des vignerons neuchâtelois pour essayer de mettre du non filtré dans leurs montres. C'est vraiment un produit du terroir qui est vraiment typique.
Ça pourrait être une idée. On approche du terme de cette émission. Avant de vous laisser retourner à Crécy, un mot peut-être sur l'avenir de l'exploitation. Aujourd'hui, le défi principal pour vous, c'est quoi ?
Alors c'est vraiment justement dans l'innovation de passer peut-être à des méthodes culturales encore plus écologiques qu'à l'heure actuelle. Donc on a cité le drone auparavant.
Oui, ce drone qui a survolé vos vignes en juin passé d'ailleurs.
Exactement.
Des essais plutôt concluants, vous allez poursuivre.
Alors ça sera vraiment des essais qui seront faits par des stations officielles de recherche où justement il y aura le drone qui va voler et puis on va justement tester tous les produits d'application. Ouais. Mais également aussi on peut parler des robots puisque la robotisation va venir aussi dans le monde viticole, des robots qui commencent à tailler, il y a des tondeuses automatiques qui font le travail de tracteurs à l'heure actuelle, qui sont automatisées, c'est des choses qui arrivent sur le marché, et puis évidemment qu'il faudra se mettre au goût du jour le moment venu.
Sans impact sur la qualité ?
Non, alors je crois que dans beaucoup de domaines, les robots ou les machines ont permis aussi justement de faciliter les travaux humains. Et puis, ça ne pose pas de problème en termes de qualité. Évidemment qu'il faut toujours le contrôle de l'être humain et puis justement donner un petit peu de mettre son cœur dans le vin pour donner un petit peu d'impact et donner le goût qu'on veut à nos vins.
Aujourd'hui, le bio, c'est quelque chose que vous visez, c'est un objectif ?
Alors, je pense que c'est quelque chose qui arrivera naturellement comme un standard en Suisse.
Moi, partout ?
Oui, je pense. Mmh. Beaucoup font du bio, de la biodynamie, mais ne demandent pas en fait, de label. C'est un petit peu mon cas sur la fin des traitements, je veux faire comme ça. Moi, ce qui me posait comme problème dans le bio, c'est que des fois, ils étaient un petit peu rétrogrades justement à l'innovation. Et puis je pense que justement on a besoin de l'innovation justement pour améliorer encore la qualité auprès du consommateur.
Pourquoi ne pas être intéressé par le label ?
Alors c'est aussi des démarches administratives qui sont compliquées. Et puis si on se lance là-dedans, on a justement une envie d'innovation mais pas tellement envie de faire plus d'administratif.
Vous parliez des robots tout à l'heure, il faudra toujours un humain pour goûter.
Totalement.
Nous voilà rassurés. Merci Nicolas Rudin d'avoir été notre invité ce soir. On vous souhaite à vous et vos confrères déjà une météo clémente cette nuit.
Oui, on l'espère.
Et puis une très bonne soirée à vous.
Merci beaucoup, excellente soirée.
Un entretien que vous retrouvez en intégralité sur notre site internet avec également quelques photos et même une vidéo des images que vous avez ramenées du Japon. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Alizé Lichti. Elle nous emmènera chez DM Surface à Saint-Imier. C'est une entreprise spécialisée dans la décoration haut de gamme, voire très haut de gamme pour des composants horlogers. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.
Sortie de boîte.